Québec, Mauricie, Outaouais, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au réseau Cogeco. Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. Vous, Landry.
Précisément 10h, c'est parti pour une autre édition de Trudeau-Landry en ce mercredi assez pluvieux dans plusieurs secteurs au Québec. Salut Jonathan.
Salut.
Notre collègue Nicolas Lacroix qui est là aussi. Salut Nico.
Bonjour.
C'est ça, il y a des avertissements de pluie dans plusieurs secteurs, sauf Gatineau. Je regardais ça vite tantôt avant d'entrer en onde. Il y a comme une petite exception aujourd'hui au Québec, sinon ailleurs c'est... Journée très, très grise et des bonnes quantités de pluie qui sont attendues. C'est rare qu'on débute l'émission en parlant de politique américaine, puis on va en parler tantôt avec Raphaël Jacob, notre chroniqueur. Mais hier, j'ai tellement eu l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai eu l'impression que toi aussi, Jonathan, en regardant le débat présidentiel hier entre Donald Trump et Joe Biden. Et puis, c'est sûr, moi, je dis toujours que pour nous autres, les Canadiens, les Québécois, on regarde ça, puis... Oui, ça nous concerne là, par la bande, là, la politique américaine, parce qu'il y a des intérêts commerciaux communs, mais je me mettais à la place d'un Américain là, hier, Joe, qui, lui, a voté pour vrai. Puis t'as beau être tanné de Trump. Moi, si j'étais Américain, je pense que ce serait le temps de tourner la page sur les 4 années de Trump à la Maison-Blanche. Mais je vois pas comment quelqu'un peut se dire, OK, Joe Biden, c'est mon homme. Joe Biden va gérer les États-Unis. Il va gérer un pays de 300 millions d'habitants. Il va gérer des crises, si jamais il y a des crises. Il y a de la difficulté à faire un débat. Il y a de la difficulté à débattre. Il y a de la difficulté à faire des phrases complètes. C'est plate à dire, mais tu sentais hier, je sais pas si tu vas être d'accord, Joe, en écoutant Biden, que c'était difficile de compléter des phrases. Surtout au début, là, c'était... J'étais mal pour lui. J'étais mal à l'aise pour lui.
C'est que le disque saute, on dirait.
Oui, exact.
T'sais, c'est un exact. Disque qui est usé et il saute. Et
exact.
Des fois, là, il veut dire un chiffre, puis ça se bouscule à la sortie. C'est pas la bonne affaire. Mais en même temps, ce à quoi on a assisté hier, c'était une totale disgrâce.
Oui.
Oh, j'ai dit sur Twitter que même en fervent amateur de politique, j'ai jamais vu un débat comme ça dans toute ma vie.
Moi non plus.
En même temps, tu dis, bon, on a perdu notre temps. On va se dire les vraies affaires. C'était très divertissant quand même. C'était
même pas, j'étais mal à l'aise. C'était même pas drôle, sérieusement, Joe, de voir Biden.
C'est vrai que tu dis ça. À un moment donné, j'ai frôlé le malaise aussi.
Ah, c'était...
Mais c'était quand même... Il y avait quelque chose de fascinant en même temps, décourageant. Mais bref... Joe Biden, depuis des mois, je dis, je peux pas croire que le Parti démocrate a pas pu faire mieux que d'arriver avec un homme à l'aube des 80 ans qui est en perte de moyens. T'sais, c'est-à-dire qu'il est moins sharp qu'il était, on va se le dire.
Sharp. Il n'y a plus de vivacité d'esprit, c'est très difficile.
Sauf que je sais au moins que Joe Biden risque de bien s'entourer. Qui va écouter les gens autour de lui. En tout cas, j'ai moins de crainte que ce que le président américain en ce moment est en train de faire et ce à quoi on peut s'attendre pour les 4 prochaines années, sachant qu'il n'y aura plus rien à perdre.
Mais ça, Joe, comme analyste politique, je comprends très bien que tu nous dises ça ce matin. Je comprends très, très bien et tu as fort probablement raison. Kamala Harris est sûrement pas parfaite, mais je pense qu'elle va être si le ticket est élu, je pense qu'elle va être une bonne police d'assurance, si tu veux, si jamais il arrive quelque chose, on ne souhaite pas à M. Biden. Mais l'Américain moyen. J'essayais de regarder ça hier en me disant, Jérôme Landry, tu vis à Skowhegan dans le Maine, OK? Pas loin du Taco Bell. Ou à Derby Line, pas loin des lignes de l'Estrie.
Moi,
là,
ça serait
loin
Exeter.
Exeter, oui.
Ah oui,
ça,
j'adore cette petite ville-là.
Tu commences à descendre un petit peu
proche
plus.
Proche de Boston,
là. Concord ou Boston, ces coins-là. Puis j'essaie de me mettre dans cette situation-là. Parce que comme je te dis, nous autres au Québec, on regarde ça avec un certain détachement, puis un gros... courant anti-Trump au Québec, c'est très, très clair. Mais je me disais, si j'avais à faire un choix pour vrai, là. Tu sais, t'as beau me dire, il va bien s'entourer, il reste que... Tu regardes Biden, tu te dis, voyons, on peut pas le mettre en charge des États-Unis, du budget, des décisions à prendre, des décrets présidentiels, si jamais il y a une crise, si jamais il y a une guerre, si jamais... Puis là, je m'en souvenais à me dire, écoutons, si j'étais un Américain moyen à Skowhegan, peut-être que je revoterais encore
mais
pour
non.
Trump. Là.
Mais non, Jérôme!
Ben, t'as quasiment pas le choix. T'as quasiment pas le choix. Aussi grossier peut-il être, il a l'air beaucoup plus en forme, beaucoup plus... il est loin d'être parfait, Trump. Là. J'ai beaucoup de critiques envers lui. Là. Très, très loin d'être parfait. Mais tu peux pas mettre Biden au pouvoir. Ça n'a quasiment pas de bon sens, Joe.
Attends. Joe Biden est peut-être plus aussi sharp qu'il l'était. D'ailleurs, pour ce qui est du langage, il y en a qui nous rappellent qu'il est bègue, sauf que ça a déjà paru moins que ça paraît. Là. Ça paraît plus. Il est peut-être pas aussi sharp, mais je veux dire, le gars n'est pas sénile non plus. Il est pas sénile. Tandis que Donald Trump, ce que je vais dire là, a été galvaudé. Ça a été caricatural. À un moment donné, on trouvait que même c'était exagéré au début de sa présidence. Mais là, je le dis objectivement, la santé mentale de Donald Trump me préoccupe énormément.
Ah, tu dois l'être aussi.
Bon, énormément. Ben oui. Et pour le peuple américain, si dans le moindre mal, il n'y a pas une bonne solution entre les deux, dans le moindre mal, entre avoir un président qui est plus au sommet... De ses capacités peut-être intellectuelles, de ses réflexes, mais qu'on va bien encadrer, qu'on va versus un gars dont je me préoccupe fortement, grandement de sa santé mentale.
Ouais, je comprends ton,
Moi, le choix, il serait pas difficile.
Mais encore là, je te ramène à l'Américain qui le vit pour vrai, là. Lui, c'est son vrai quotidien. C'est pas juste, il regarde ça de l'extérieur, puis lui, là, il est assis chez eux, puis il regarde ça, puis il dit, OK, auquel des deux je confie les destinées du pays pendant les 4 prochaines années, là? Alors que Trump, c'est vrai que Trump, il a pas d'allure. Tu sais, quand il parle des... quand il parle des tensions raciales aux États-Unis, quand il refuse de condamner les suprémacistes blancs, quand il refuse de confirmer qu'il va y avoir une transition pacifique du pouvoir, il est complètement pas sa coche. Il est complètement dehors de ses pompes, on comprend ça. Mais si tu regardes ce qui s'est passé dans les 4 dernières années aux États-Unis, la catastrophe annoncée, puis les guerres, puis l'éclatement, puis ça s'est pas confirmé tant que ça. Il y a beaucoup de mauvaises notes à son dossier qu'on doit mettre à son dossier, Joe. Puis notamment la paix sociale aux États-Unis, ça a reculé beaucoup dans les 6 derniers mois. On s'entend là-dessus. Puis il n'y a absolument rien fait pour améliorer ça. Mais entre tu comprends-tu que de choisir aussi de sortir un président qui est là depuis 4 ans, puis c'est là qu'il y a bien des Américains, je pense, qui vont dire, ouais, finalement, on va peut-être garder Trump. Parce qu'il est le président sortant, je pense que t'as un avantage. Quand t'es déjà à la Maison-Blanche, je pense que t'as déjà un avantage. Puis il y a beaucoup d'Américains, je pense, qui se sont dit hier, « Ouais, tant qu'à sortir Trump et à mettre Biden, on va essayer encore 4 ans de Trump. » Et je pense qu'en ce sens-là, Trump, que vous le vouliez ou non, a été gagnant du débat hier. Pas parce qu'il a eu l'air intelligent. Ah oui, parce que...
Mais non, arrête ça.
Il a solidifié sa base. Parce que sa base...
Mais il a fait aucun gain
quand il est agressif.
Il devait faire des gains.
Je sais pas s'il n'a pas fait de gain. Ça, c'est le long terme qui va nous le dire. Il faut faire très attention avant de dire que Trump est battu. Mais encore là, il faut faire attention, Joe. Puis je comprends que tu regardes ça avec un œil d'analyste politique. Puis c'est correct comme ça aussi. Mais mettez-vous à la place de l'Américain moyen qui est pas toujours dans la politique et qui est un peu chambranlant entre les deux. Je peux pas me dire que Biden a convaincu beaucoup de monde hier non plus pour ceux qui l'ont regardé. Oui, Nico?
Moi, je pense qu'il n'y a rien qui a changé hier. Okay. Sauf que faut que tu donnes à Trump d'avoir été, excusez-moi l'anglicisme, on brand. Ouais. Ceux qui trippent sur Trump ont eu exactement ce à quoi ils s'attendent hier. Exact. Alors que ceux qui trippent sur Biden ont été déçus hier.
Mais ceux qui chambranlent entre les deux?
Ceux qui chambranlent ont eu rien. Je pense qu'on a changé d'idée de personne hier.
Moi, je pense pas que ceux qui trippent sur Biden ont été particulièrement déçus parce que il y a pas personne qui s'attendait à ce que Joe Biden soit étincelant hier, là. T'sais, on le sait qu'il est pas comme un bon vin, qu'il s'améliorera pas en vieillissant. Ses meilleures années sont derrière lui. Les indécis, quelqu'un qui regarde ça et qui dit, moi, je vais être éclairé ce soir, ont vu un président mal engueulé, mal poli, incapable de suivre n'importe quelle règle la plus élémentaire puisse-t-elle être. Et ils ont vu un Joe Biden qui était pas cher, mais qui était pas capable de dire 8 mots d'affilée sans que l'autre croche et l'insulte.
D'ailleurs, les interruptions.
ce que les gens, et tu viens de le faire, reprochent à Trump, c'est la marque de Trump depuis 4 ans et demi. C'est pour ça que je dis qu'il a pas perdu hier. Il est exactement comme
exactement
il était
d'habitude. Exact. Il a rien perdu hier, je suis convaincu. Moi, je pense qu'il en a gagné un peu à cause de la faiblesse de Biden. Et faut pas penser que les Américains, c'est un peu comme ici, mais je pense que c'est encore plus vrai aux États-Unis. Les Américains, là, puis regardez les taux de participation présidentielle. C'est quoi à peu près les taux de participation quand il y a des présidentielles? Autour de 50.
C'est 50, hein?
C'est autour de 50. Ici, quand il y a des élections, c'est rarement en bas de 60. Il y a beaucoup d'Américains qui en ont rien à cirer des politiciens. C'est pas vrai qu'ils lisent à tous les jours le Washington Post, puis qu'ils écoutent à tous les jours soit Fox News puis CNN. Ils font leur vie, ils opèrent leurs entreprises, puis ils regardent le débat. Puis ils regardent un peu les grandes lignes de ce qui se passe. Il y a déjà un désintérêt. Les Américains sont très désintéressés de la politique, plus que nous autres, parce qu'ils aiment pas beaucoup la présence de l'État dans leur vie en général. Quand tu regardes ça hier, personne va me dire « Biden, écoute, il a assuré sa victoire hier. » C'est absolument pas ça qui s'est passé hier.
Il y a un élément qui me fascine depuis des années, c'est l'exemple que donne le président américain aux générations qui le succèdent, qui le suivent. Si j'étais un Américain hier soir, je suis dans mon salon puis je veux que, je sais pas, mon jeune ado de 12-13 ans s'intéresse...
Ouais.
À la politique, au devoir de citoyen, puis là, il est assis dans son salon.
C'est minable.
Son président, là, celui qui devrait servir d'exemple parmi tous les exemples, est un homme petit, mesquin, mal engueulé, irrespectueux, imbu de lui-même. Ça me décourage. Mmh. Je dirais, non, regarde pas trop. Regarde pas ça. Là.
Non, c'est minable. Écoute, on est loin de Kennedy versus Nixon en 1960. On est loin de, tu sais, de la finesse d'esprit d'un Ronald Reagan dans les années 80 dans les débats aussi. On est très, très loin de ça. Mais quand on dit ça, Joe, on regarde ça en faisant une analyse politique. Mettez-vous à la place de l'Américain moyen qui chambranle. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Les gens sont pas d'accord que je dise que Trump a gagné. Mais vous pouvez pas dire que Biden a gagné. Puis si on l'intellectualise un peu plus, c'est vrai que la démocratie américaine est en lambeaux.
Moi, je trouve qu'il a gagné par défaut. Je trouve qu'il a gagné par défaut. Puis tu parles de l'analyse. Moi, personnellement, lorsque je fais des analyses politiques, j'essaie de me mettre justement dans les souliers des gens.
Ouais.
J'y vais pas juste avec la théorie, là, utiliser tel mot, le temps de parole, le ton. J'essaie de me mettre dans la peau de la personne qui reçoit ça, qui l'écoute. C'est sûr qu'on n'est pas des Américains, mais j'essaie de me dire qu'est-ce que je retire de ça. Et souvent, dans des débats, t'as des gagnants par défaut. À mon sens, Joe Biden est le gagnant par défaut.
Ouais.
Parce que même si on s'attendait à ça de Donald Trump, moi, il était pire que ce que j'appréhendais en tout point. Au bout de 12 minutes, il se pognait avec Wallace, qui est un gars de Fox News, là,
ben oui,
avec le modérateur.
C'est supposé être sa gang. Mais il, dans sa façon de faire, il est minable. Mais politiquement, moi, je pense qu'il était encore habile hier. Puis... Ça, là où ça se complique quand on se met à la place d'un Américain, c'est que faut pas que tu te mettes dans la place d'un Américain qui vit à San Francisco. Faut pas que tu te mettes dans la place d'un Américain qui vit à Manhattan non plus. Il faut que tu te mettes dans la place d'un Américain qui parfois vote démocrate et parfois vote républicain, qui a perdu sa job dans une usine en Pennsylvanie. Ça, c'est les États clés. Ça se jouera pas en Californie, puis à New York, puis à Boston, cette élection-là. Ça va se jouer en Ohio, Pennsylvanie, en Floride aussi. Dans les États industriels, c'est toujours là que ça joue, ça va être encore le cas. Il faut que tu te mettes dans la place du gars qui, oui, vote tantôt démocrate, tantôt républicain, qui a peut-être voté Trump en 2016. C'est là que ça va jouer, parce qu'en Californie, ils vont voter massivement démocrate, ça c'est clair.
Sauf qu'il faut pas oublier que la situation a changé dans les 6-7 derniers mois.
Ben, c'est ça, mais là-dessus, Joe, je suis pas capable de dire que Biden a gagné hier. Je suis obligé de vous dire que politiquement, Trump a gagné ce débat-là, même si c'est pas édifiant. C'est pas élégant. Il est choquant. Il n'y a pas d'allure. C'est ça la réalité quand même.
Et c'est ça. C'est que les gens qui sont enragés au 25-2-2-6, trompez-vous pas, là. On vous dit pas que Trump
a
des bonnes valeurs, puis qu'il est bon, puis qu'il est présidentiel.
Pas du tout.
Ce qu'on vous dit, ben, en tout cas, ce que moi je vous dis, c'est qu'il a été fidèle à lui-même hier. Donc, si tu aimes Trump, ou si t'es chambranlant, mais que t'es plus tendance Trump, il t'a convaincu ou il t'a pas fait changer d'idée hier, alors que Biden, selon moi, a été... En fait, les trois ont été très faibles hier. Il était,
c'est ça.
Modérateur était Wallace, pourri aussi.
Sauf que si les trois sont très faibles, t'es obligé de donner l'avantage...
À celui qui est là.
À celui qui est là. Malheureusement, que ça fasse plaisir au monde ou non, celui qui est déjà installé dans la Maison-Blanche a automatiquement un avantage.
En tout cas, on va parler avec Raphaël
Jacob
tantôt.
Finir
mais juste pour finir là-dessus... Je vais finir aussi. Oui. Puis,
on va finir deux fois.
C'est ça, on va faire deux une double fin.
Deux conclusions.
Deux desserts. Trump devait renverser la vapeur hier et ça ne s'est pas avéré. Donc, c'est pour ça que je pense que Biden est le gagnant.
Mais tu parles comme si Biden avait une avance incroyable dans les États-clés. Faut pas regarder le chiffre national. Je l'ai vu là, hier, 50-43 national. Ça n'a aucune importance.
Non, mais la tendance est pas bonne pour Trump, la tendance en ce moment, avec les scandales, avec la pandémie, avec l'économie. Tendance n'est pas à la hausse.
Je te dis pas que la tendance est à la hausse, mais la tendance nationale a zéro importance. C'est la
Je sais, c'est état par état.
Pennsylvanie, Ohio, Floride, il y a quelques états comme ça qu'il faut regarder. Puis je suis pas en train de vous dire que je souhaite une victoire de Trump. Mais
moi, c'est ça, j'ai compris, en tout cas.
Non, il y a des chances que ça... Juste pour finir là-dessus, Slate, qui est un magazine intéressant. Tu sais,
oui,
dans les nouveaux
j'adore
médias...
J'adore Slate.
Oui, ils parlent de sortes de choses. Ils ont compté les interruptions pendant le débat hier. Combien de fois Trump a interrompu Biden et le modérateur Chris Wallace? C'est 128 fois. 128 interruptions. Ça dépasse ce qu'il avait fait en 2016. Parce qu'en 2016... Il avait interrompu dans le premier débat Hillary Clinton 51 fois. Hier, il est monté à 128.
Wow!
Fait que Trump a été Trump encore plus. C'était Trump fois deux encore dans ce débat-là. Dans les autres choses, on va surveiller tantôt Joe à 17h. Ça va être en fin de journée. Je sais pas si le premier ministre va prendre cette habitude-là. Je sais que les cotes d'écoute ont été bonnes cette semaine. Là, je pense que c'est pas loin du million qui ont regardé ça à TVA. 1,3 million, je pense, quand il a annoncé les zones rouges ce lundi. Donc, 17h avec Geneviève Guilbeault, on va préciser comment on va intervenir auprès des plus récalcitrants, Joe.
Absolument. Mmh. Et là, il y a quelque chose de particulier. Tu viens de le mentionner. Geneviève Guilbeault va être là. Mmh. Parce qu'au-delà de l'heure, puis l'heure, j'en avais parlé un peu plus tôt cette semaine, ils cherchent un moyen de recommencer à joindre un maximum de personnes, parce que là, à 13h, c'est plus comme quand le Québec était sur pause, les gens, en majorité, sont au travail. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le faire à heure de grande écoute sur l'heure du souper. Mais donc, Geneviève Guilbeault va être là, et souvenons-nous que la vice-première ministre et le premier ministre ne se sont pas retrouvés dans la même pièce. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, depuis le début de la pandémie, pour s'assurer que si un des deux chopait la COVID, l'autre pouvait prendre le relais ou en tout cas demeurer en poste et pas risquer d'être infecté ou d'infecter l'autre. Là, l'avis de convocation a été modifié ce matin parce que c'était parti avec un avis qui nous parlait de François Legault uniquement. Et ça a été modifié pour ajouter Geneviève Guilbeault. Donc, ça démontre toute l'importance de ce point de presse-là, parce qu'il y a des citoyens qui se posent des questions, mais aussi tous les corps policiers au Québec qui se demandent si ce sera quoi notre mandat et quels outils on va nous donner pour justement réaliser ce mandat-là.
Oui.
Je pense par exemple aux manifestations. Je pense aux constats portatifs lorsqu'il se passe quelque chose dans les maisons.
Le télémandat, de ce que j'ai compris aussi, qu'on veut utiliser. Là.
Ça serait bien.
Oui.
Ça serait bien.
C'est le mandat qui arrive sur le téléphone cellulaire du policier.
Oui, exactement.
Qui arrive, un peu ce que tu disais cette semaine, exactement. Qui arrive d'un juge de paix, puis le mandat apparaît sur le téléphone. Là.
Alors, puis dans les manifestations, ça va être de voir, bon, là, ils ont dit, ça prend un masque si vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres. Il se passe quoi si les gens ne respectent pas? C'est des amendes, c'est on vide la place, on vous met dans le panier à salade. C'est le genre de choses qu'on devra préciser. Et c'est un exercice assez périlleux. Ouais.
Je vais vous lire les propos de notre collègue Bernard Drinville. Ça, c'est notre collègue à Montréal. Vous le connaissez, l'ancien ministre péquiste. Il a dit ce matin, est-ce qu'on s'en va vers la méthode forte contre les anti-masques? Jusqu'où ira François Legault? Et selon lui, les Québécois sont prêts à la méthode ferme. Êtes-vous prêts à la méthode ferme? 25-226, peu importe où vous nous écoutez au Québec. La méthode ferme, moi, je pense, puis j'en suis quasiment rendu à me dire que oui, je suis prêt à la méthode ferme, Joe, parce que je suis tellement écœuré de cette situation-là. Puis là, quand on a commencé à nous parler d'une troisième puis d'une quatrième vague, je veux tellement que ça finisse que je suis rendu à me dire oui, soyez très sévère. Puis mettez-la à l'amende. Ceux qui comprennent rien, là, puis qui vont se faire des parties dans les 28 prochains jours ou qui porteront pas le masque, soyez très, très, très sévères. Je pense que notre collègue Bernard Drinville n'a pas un mauvais point là-dessus.
C'est ça, c'est que ça dépend c'est quoi qu'on entend par méthode forte. Si la méthode forte, c'est de ne pas hésiter à donner des amendes aux récalcitrants, j'en suis à 100%, même 1000%, je suis tanné qu'on soit trop tolérant par peur de créer un ressac. Parce que on le sait, on a des exemples dans notre quotidien. Des fois, quand tu pointes du doigt le coupable, ça va faire en sorte qu'il va se victimiser, qu'il va jouer au martyr.
Oui.
J'ai des exemples en tête, là. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut aussi que tu agisses. Parce que trop de laxisme, ça fait que le phénomène peut gonfler. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec les anti-masques, avec les complotistes et avec ceux qui vraiment sentent... Parce que, tu sais, il y a les gens qui vont faire preuve d'un peu de laxisme, qui sont moins prudents qu'eux. Il faut, tu sais, les ramener à l'ordre, leur rappeler, les resensibiliser. Mais les récalcitrants, à un moment donné... Il faut frapper là où ça fait mal. Je pense que c'est le portefeuille. Donc, si la méthode forte, c'est de dire, on n'hésite pas à donner des amendes, on donne l'exemple, go, allons-y. Je suis pas prêt à sortir la matraque puis se mettre à fesser sur le monde puis le poivre de Cayenne. Là, c'est pas ça qu'on souhaite personne.
Mais il faut être sévère.
Il est temps d'être sévère.
Je suis d'accord, je suis très, très d'accord avec ça. 10h19, on s'arrête quelques instants. Au retour, on va aller parler avec un expert de politique américaine du débat d'hier soir, Raphaël Jacob. Restez là.
Trudeau Landry. Bah, au moins, ils ont des beaux noms. On vient dans pas long.